Chaque mercredi à 17h30, vous avez rendez-vous avec le magazine Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université de Lille 1. Aujourd'hui, nous allons parler de mathématiques, pas seulement de mathématiques, mais de mathématiques et d'interculturalité. Avec le représentant de l'IREM, l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, M. Saïd Belmehdi. Bonjour M. Belmehdi. Donc, les mathématiques sur l'université, l'IREM, c'est un petit peu l'organisme qui s'occupe de la formation des enseignants en général ou au-delà ?
En particulier, effectivement, l'IREM a une place singulière dans le paysage éducatif. Et il est concerné à la fois par les enseignements primaires et secondaires, par la formation, notamment continue des maîtres, par l'enseignement supérieur et la recherche. Ce sont des univers bien différents, d'abord et surtout du point de vue de leur organisation administrative, mais aussi parce que ici, les individus qui résident dans chacun d'eux s'intéressent peu aux préoccupations des autres. Et notre positionnement aux frontières de ces domaines a toujours fait notre originalité et notre force en termes pédagogiques et scientifiques.
D'accord. Donc on peut dire que dans l'année, vous accueillez des gens à former ?
Absolument.
Et combien de personnes à
peu près ? Je peux donner un certain nombre de chiffres. Mmh. Nous proposons des stages de formation pour les enseignants de secondaire qui sont retenus dans le PAF, le plan de formation académique.
De formation continue.
Voilà. Et on a à peu près 500 personnes, 500 stagiaires qui passent chez nous à l'IREM. On a beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'introduction des TIS dans l'enseignement des mathématiques, donc énormément de stages concernant les tableurs, l'introduction des logiciels de géométrie dynamique. Je dois rappeler juste un chiffre. Sur la région, il y a à peu près 3000 enseignants de mathématiques en collège et au lycée. Et nous voyons, en gros, chaque année, à peu près 10% entre les stages plus les journées académiques que nous organisons.
Alors, on a tendance à croire que les mathématiques sont une science exacte et que ce qui est valable l'est toujours. Et donc, ce qu'on a appris depuis, je sais pas, Aristote, on peut peut-être dire, c'est toujours valable et ça ne se démode pas. Or, il y a des grands changements. Je me souviens de l'époque des mathématiques dites modernes, des années 60, qui était une révolution. Et est-ce qu'il y a d'autres révolutions comme ça actuellement et d'autres à venir en préparation dans les cartons ?
Les mathématiques sont, on pourrait dire qu'ils sont en révélation permanente, mais en même temps, il y a une pérennité d'un certain nombre de choses. Vous avez cité Aristote. Toute notre culture et notre savoir scientifique est basé sur les catégories définies par Aristote jusqu'à aujourd'hui. La seule chose qui arrive, c'est l'éclairage que nous jetons sur ces catégories. Effectivement, vous avez aussi évoqué les années 60. Il faut dire que les IREM ont été créés à l'occasion de l'introduction des mathématiques modernes, parce qu'à l'époque, les enseignants de mathématiques dans le secondaire se trouvaient démunis totalement face à cette nouvelle façon de faire les mathématiques.
C'est vrai que c'était un peu la panique. Et si on voit un petit peu le résultat de ça, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on proposait comme révolution, ça s'est bien accroché, ça a servi à quelque chose, et qu'est-ce qu'il en reste comme héritage ?
Alors, il y a si on voudrait faire un bilan, on doit faire un bilan nuancé. Mm-hmm. Et il est vrai que l'école mathématique française est une des meilleures au monde.
D'accord.
Et ceci essentiellement grâce à l'introduction de ces mathématiques modernes et à l'école bourbakiste, à la vision bourbakiste des mathématiques. Mais en même temps, la façon bourbakiste de faire les mathématiques, je pense qu'elle ne convient pas à tout le monde. Et donc, il y a effectivement quelques effets secondaires de l'introduction des mathématiques modernes qui fait que beaucoup de gens ont décroché très vite parce qu'on allait trop tôt vers une abstraction totale et profonde.
Alors, si on résume, la France, un des plus grands pays de mathématiques au monde, l'Université de Lille dans les 10 meilleures universités en tant qu'université dans les classements en question. Est-ce qu'on peut dire que cela attire énormément de gens qui viennent du monde entier pour apprendre les mathématiques en France et notamment à Lille ?
Effectivement, la France a une position assez avancée dans les mathématiques. Je rappelle toujours ces chiffres. Les mathématiciens n'ont pas de prix Nobel. Ils ont ce qu'on appelle la médaille Field. Et lorsqu'on comptabilise le nombre de médaillés en France, on a 9 médaille Field sur 62 millions. Les États-Unis, qui sont à peu près 300 millions, en ont 11. Donc, au nombre d'impression, nous devançons les Américains. Mm-hmm. Et récemment, on a une excellente nouvelle. Le lauréat de prix Abel est un Français, je dois préciser, d'origine russe, Gromov, Michel Gromov. Et donc, effectivement, les mathématiques modernes occupe une bonne position et on peut être fier. Par ailleurs, nous n'attirons pas autant que ça d'étudiants parce qu'il y a eu, par le passé récent, une certaine politique qui a freiné la venue d'un certain nombre d'étudiants et particulièrement les étudiants francophones d'Afrique.
Alors, on reviendra donc sur ces étudiants dans quelques instants. Si on revient à l'origine des mathématiques, on va dire peut-être la Grèce, mais peut-être d'autres pays, la Mésopotamie, peut-être, la Chine.
Absolument.
Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre ces pays d'origine et la qualité actuelle de l'enseignement, de la recherche en mathématiques ? Est-ce que ces pays d'où viennent les mathématiques ont gardé ce cap ont capitalisé un petit peu cette origine?
Si on ferait une espèce d'ethnographie des mathématiques, les mathématiques ont existé et toutes les sociétés ont pratiqué et exercé des activités mathématiques. Mm-hmm. Il est vrai que les Grecs sont distingués parce que les Grecs nous ont légué un certain nombre de travaux. Mais nous ne pouvons pas oublier les Mayas qui sont loin de nous, dont j'ai un collègue directeur de l'IREM de La Réunion qui a fait un travail remarquable sur les mathématiques d'Océanie. Mm-hmm. Et c'est extraordinaire où est allié l'art et les mathématiques. Ils ont une autre façon, chaque culture. Alors, nous organisons cette année, comme chaque année, on a des journées académiques. Cette année, on organise des journées académiques sur le thème mathématiques et interculturalité, mm-hmm. où on va aborder, effectivement, un certain nombre d'aires géographiques qui correspondent à des aires mathématiques. Nous partons, par exemple, on a une conférence sur la réception d'Euclide chez les Chinois. Collègue Ahmed Jebar, qui est un spécialiste des mathématiques de langue arabe, il tient beaucoup à cette distinguo qui va nous parler aussi de mathématiques et interculturalité en pays d'islam. On a un spécialiste des mathématiques égyptiennes. Nous couvrons un large spectre géographique dans ce domaine.
Alors, toutes ces mathématiques qui sont nées dans des pays différents, est-ce qu'elles ont fini par faire la synthèse à un moment donné, ou du moins de mettre en commun un certain nombre de choses qu'on peut dire universelles, de concepts ?
Oui. Alors, il y a, alors c'est un grand débat chez les gens qui s'occupent d'histoire des sciences et particulièrement d'histoire des maths sur l'invariance d'un certain nombre de concepts mathématiques. Il faut dire que, par exemple, la notion d'angle, on la trouve pratiquement dans toutes les sociétés. Mm-hmm. La notion de mesure aussi, la notion de transformation, on les retrouve. Mais on peut dire aussi que selon les structures sociales, si on prend le cas de l'Égypte, qui était une grande civilisation aussi scientifique, je vous dis bien aussi parce que l'idée générale est que les Égyptiens n'ont pas fait beaucoup de mathématiques. Hérodote nous raconte que les Grecs sont d'abord partis chez les Égyptiens apprendre les mathématiques. Et parmi eux, Thalès est là pour nous rappeler cette histoire. Pythagore, lui, il est allé au-delà, il est allé chez les Mésopotamiens aussi, chez les Égyptiens. Et par contre, on trouve, il y a très peu de choses qui ont été léguées par les Égyptiens. Et je ne suis pas un historien des sciences, mais mes collègues qui sont spécialistes des mathématiques égyptiennes vont hurler lorsque je dis ça. Mais chez les Grecs, on peut remarquer qu'ils ont cette sensibilité de passer à la postérité. Mm-hmm. Ils sont extrêmement conscients, ils le disent dans leurs écrits, pas seulement en mathématiques, mais partout ailleurs, parce qu'ils veulent léguer quelque chose à la postérité.
Alors, au départ, dans chaque pays, l'invention, on va dire, individuelle, enfin, propre de chaque pays, correspondait certainement à un besoin matériel de quantifier, de mettre en commun des manières de représenter des quantités et d'échanger, peut-être. À partir du moment où on fait de la recherche, est-ce que ça a encore à voir avec l'intérêt ou l'utilité ?
Oui, alors c'est une question d'actualité, parce que aujourd'hui, les scientifiques sont sommés de montrer l'utilité de leur travail de recherche.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
Mais je pense que c'est une question pernicieuse et perverse de légiférer, en quelque sorte, sur la recherche scientifique. On peut donner des orientations, parce qu'on peut montrer par le passé un certain nombre d'exemples que personne... Alors, personne ne doutait qu'ils allaient être utiles. C'était de simples généralisations d'idées mathématiques qui obéissaient à une espèce de logique interne des mathématiques et que par la suite, on a découvert leur utilité.
Mmh. Alors, est-ce qu'on peut dire que les gens qui ont ces idées de matérialiser un petit peu tout ce qui est intellectuel sont des pauvres d'esprit? Et est-ce que ça ne joue pas justement sur une conception de la société qui serait pratique, mais sans aucun rêve et surtout sans aucune capacité d'imaginer?
Il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les mathématiques étaient une des rares disciplines qui a échappé à ce que j'appellerais la technoscience. Parce que, avec la révolution industrielle, les découvertes scientifiques ont été traduites par des découvertes industrielles et qui rapportaient de l'argent. Et jusqu'à une date récente, personne n'imaginait que la théorie du nombre allait rapporter de l'argent. Jusqu'à ce qu'on découvre que la théorie du nombre, c'est important dans la cryptographie et que les puces qui sont dans nos cartes bancaires, aux cartes téléphoniques, aux cartes SIM, ben, derrière, il y a de la théorie du nombre.
Mais au-delà de ce qui ramène de l'argent, il y a aussi la formation de l'esprit, l'évolution du cerveau dans le temps et des concepts. Hein. Il n'y a pas que l'aspect purement matériel, économique. Hein. Il y a aussi tout ce qui fait que l'homme progresse et reste un homme et développe oui. cette humanité.
Oui, oui. Effectivement, dans mes tournées dans les établissements de secondaire, souvent j'essaye de démontrer que les mathématiques est une école de citoyenneté. Parce que lorsqu'on fait des mathématiques, on apprend la rigueur, on ne peut pas tricher. Mmh. Une démonstration mathématique, c'est une succession de propositions. Ils sont vrai et il n'y a pas de contradiction entre ces propositions. Et je dois rappeler que le mot mathématique ne vient des Grecs et qui vient du mot mathimata, qui veut dire leçon. Donc les mathématiques, c'est une leçon par excellence et une leçon de citoyenneté.
citoyenneté et rigueur.
Rigueur. Mmh.
Donc effectivement, quand on voit, je me souviens de, d'une personne qui était responsable d'un centre culturel de la région, qui n'est plus là, mais qui avait un fils, et quand son fils venait sur l'université de Lille et qu'il voyait sur le bâtiment, sur le panneau qui annonçait le bâtiment de mathématiques, mathématiques pures, il y avait un grand moment de bonheur à dire mathématiques pures, il rêvait de ça quand même. Ça fait rêver quand même, la pureté des mathématiques par rapport aux autres sciences qui sont nobles aussi, mais où on fait des approximations, des pourcentages d'erreurs. Là, on est sur strictement une pensée qui doit se tenir d'un bout à l'autre et si possible rencontrer les autres pensées.
Oui, je vais vous décevoir un tout petit peu parce que je vais prêcher pour ma chapelle. Je suis un mathématicien appliqué, numéricien, et mon domaine, c'est l'approximation. Et souvent, en ville, lorsque je dis que je fais des mathématiques et que je fais de l'approximation, je vois des yeux ronds parce que, effectivement, les mathématiques aussi servent à quantifier l'approximation. Parce que, en nous introduisant la notion d'analyse d'erreur, parce que lorsqu'on fait de l'approximation, l'approximation n'a de valeur que lorsqu'on peut estimer l'erreur. Mmh. Et cela n'est pas contradictoire avec le fait d'être rigoureux. Alors, effectivement, c'est un grand débat entre les mathématiciens, purs et les mathématiciens appliqués, mais dans l'adjectif pur, il n'y a pas, c'est pas de l'innocence qu'il faut chercher. C'est beaucoup plus de la rigueur et le dépouillement. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le mathématicien est quelqu'un qui a un cerveau compliqué, mais une psychologie simple?
Je ne saurais pas répondre à cette question, mais je peux dire que lorsque j'observe mes collègues, effectivement, c'est des grands garçons.
Et finalement, ça aide à vivre aussi.
Lorsque on pratique les mathématiques à haut niveau, effectivement, c'est un univers qui peut devenir clos et dangereux des fois.
Moi, j'en vois qui jouent avec les nombres, avec les équations, ou je ne sais pas, qui prennent un vrai plaisir à se rencontrer ici ou au bar. Ou, voilà.
Absolument. Lorsqu'on est un chercheur, je pense que s'il n'y a pas de plaisir, on ne peut pas être un chercheur. Très tôt avec la pratique. Alors, il y a de la sèse, parce que je dis souvent qu'un sportif professionnel fait de 10 heures, il fait ses gammes. Les mathématiciens aussi ont fait ses gammes. Et lorsqu'on cherche, il y a un moment, une fusion entre le besoin d'aller plus loin et la recherche de plaisir et de la satisfaction. Ça, c'est certain.
Alors, est-ce que c'est un plaisir solitaire ou partagé, ou parfois une forme prend le pas sur l'autre?
Alors, c'est souvent les deux, parce que on ne peut plus faire maintenant les mathématiques en solitaire, bien qu'il y a des exemples individuels qui nous montrent le contraire. Mais en gros, aujourd'hui, les mathématiques se font en équipe, en collaboration, et c'est transfrontalier et transnational.
Alors, dans ce plaisir, est-ce que l'activité pédagogique est encore un moment de plaisir? C'est-à-dire que le fait de donner à priori des étudiants, donc des gens qui ont moins de connaissances que vous, ça donne quand même un certain plaisir où on est dans la redite, etc.
Alors, on n'est pas souvent... Alors, on peut être dans la redite, mais à Lille 1, surtout à l'UFR de maths, on a adopté une règle de 3 ans. On ne reste pas plus que 3 ans à enseigner le même cours. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas... sauf si personne ne réclame votre cours. Donc, il n'y a pas risque de redite et de lassitude. Secondo, effectivement, tous les collègues qui ont opté pour ce métier, je pense qu'ils ont une vraie passion de transmettre. Parce que dans les mathématiques, on apprend les choses pour les transmettre. On les transmet d'abord à nos étudiants et secondo à nos collègues avec qui on partage des centres d'intérêt.
Est-ce qu'il y a un plaisir à découvrir, par exemple, des étudiants particulièrement brillants? On se dit, celui-là, il ira loin.
Ah, quel bonheur d'avoir... c'est une denrée de plus en plus rare, il faut avouer. Lorsqu'on a un étudiant brillant, on est au nu. parce que d'abord, ils jouent le rôle d'une locomotive dans la classe, dans la salle ou dans l'amphi. Et ça, c'est important. Elle est l'exemple, et je pense que l'enseignement est d'abord se fait par l'exemple. Et ça, c'est important. Je suis très triste des fois de voir la place réservée à la transmission de savoir dans notre société moderne aujourd'hui. Les jeunes sont sollicités par un tas de choses éphémères et qui, malheureusement, n'apportent pas beaucoup ni à l'épanouissement de la personne ni à la formation. Et les mathématiques restent un petit bastion. On essaye d'inculquer cette envie d'apprendre, parce que effectivement c'est un défi d'essayer d'apprendre, dépasser et pousser les frontières de son ignorance chaque jour un peu plus loin.
Alors, vous parliez de défi, est-ce que parfois il y a des confrontations entre le maître et l'élève? Est-ce que parfois il y a des discussions acérées sur une théorie ou sur une résolution?
Ah oui, absolument, mais ça se passe souvent au niveau de la thèse, pas au niveau lorsqu'on enseigne. Effectivement, il y a des fois des confrontations, mais je vous rassure tout de suite, nous sommes tout à fait disposés, parce qu'on est heureux lorsqu'on est dépassé par son élève. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le savoir, et il faut le dire et le redire, lorsqu'on le dispense, on n'en est pas démuni. Et ça, c'est important. Il faut dire à ces gens-là qui veulent marchandiser le savoir que c'est une erreur. Le savoir n'est pas des tomates ni des pommes de terre. Lorsque je vends, je ne vends pas. Mais lorsque je dispense mon savoir, j'en suis pas diminué, je garde encore et peut-être je suis enrichi parce que dans l'échange, j'ai appris quelque chose.
Voilà, donc on va revenir à ce colloque mathématiques et interculturalité qui va se dérouler les 15, 16 et 17 avril. Ça se passe bien sûr à la cité scientifique de l'Université de Lille. Dans quel lieu exactement?
Alors, le colloque se passe de la façon suivante, comme on fait à l'IREM. Les matinées, c'est des conférences, et les après-midi, c'est des ateliers. Donc, les conférences se passent ici au M1 dans l'amphi Archimède, et les après-midi, les ateliers se passent dans des salles en M1, en M5, éparpillées sur le campus.
Alors, une année, j'avais vu arriver des professeurs d'université russes, enfin de plein de pays. C'est encore le cas cette année?
Non. Essentiellement, c'est nos collègues français qui sauf il y a parmi les conférenciers, non, parmi les animateurs d'ateliers, j'ai deux Algériens qui arrivent d'Alger pour nous faire quelque chose sur les mathématiques médiévales.
Voilà, donc là, c'est des journées qui font réfléchir sur les pratiques d'autres pays plutôt que faire venir l'ensemble des pays en délégation.
Oui. Alors, la seule chose qu'il faut dire, c'est que nous avons choisi ce thème pour deux raisons. La première, c'est que notre société est aujourd'hui pluriethnique et multiculturelle. Et donc, il y a des gens qui viennent d'horizons divers, et souvent, ils sont ignorants de faits culturels de leur pays d'origine. Et nous estimons que les enseignants des mathématiques peuvent contribuer à une espèce de compréhension, parce qu'on sache qu'on a eu des ancêtres qui ont été brillants à un moment, c'est le destin de toutes les civilisations, que je pense que ça redonnera un peu de dignité à tout le monde si on a un étudiant comorien qui s'aperçoit effectivement qu'en Océanie, on a pratiqué des mathématiques à un niveau assez élevé à une certaine époque, et qu'on a des techniques. Je pense que ça permet une espèce de compréhension, de reconnaissance mutuelle.
Alors, curieusement, quand on parle des Jeux Olympiques, c'est associé aussi à la flamme, au flambeau qu'on se passe. Est-ce que les mathématiciens se repassent le flambeau également avec cette source qui nous vient de Grèce, par exemple?
Absolument. D'ailleurs, on a même copié sur ça, on a des Olympiades de mathématiques. Effectivement, la transmission de savoir est essentiellement un passage de témoin.
Est-ce que d'une génération à l'autre, ce passage se fait plus ou moins bien? Est-ce qu'on est dans une période faste pour les mathématiques et la transmission du savoir mathématique?
Alors, pour être franc, actuellement, le sommet de la pyramide va très bien, la base ne va pas très bien. Et ceci est essentiellement une question de moyens, parce que les mathématiques, c'est une discipline dure, et il faut lui réserver le temps et l'énergie nécessaires.
Donc quand on dit moyens, c'est aussi la volonté des gens ou l'intérêt des gens de s'y consacrer, j'allais dire, pleinement.
Absolument. Absolument. Parce que il ne suffit pas des moyens matériels, mais il faut créer les conditions pour que les gens recommencent à aimer le savoir en général et les mathématiques en particulier.
Donc retrouver peut-être le goût de l'effort ou de l'exigence, pour certains, c'est pas facile peut-être.
Absolument, je suis absolument d'accord avec vous. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, surtout les jeunes sont sollicités par un tas de choses. Ils ont d'autres centres d'intérêt qui sont malheureusement pas formateurs. Et il faut, et ce n'est nullement une position de anachronique ou nostalgique d'un passé glorieux, mais c'est la réalité, parce que nous ne pouvons pas aller loin, et je n'aimerais pas que ça soit le début de la fin d'un cycle, ce 21e siècle, si on ne s'attelle pas à vraiment acquérir le savoir correctement.
En même temps, je pense que la capacité des hommes reste intacte d'une manière générale. Après, c'est une histoire de cultiver cela.
Ah, il n'y a aucun doute là-dessus. Nos enfants ne sont pas moins bêtes que ce qu'on était. Ça, il est clair. Mais ils sont, leur intention est canalisée ailleurs que sur... ce qu'il faut expliquer, c'est que lorsqu'on est jeune, il y a une phase d'apprentissage et il faut en profiter.
Alors, à ses parents qui croient que quand leur gamin joue avec des jeux très sophistiqués ou sur Internet, en réseau, etc., et ça va leur développer l'esprit, est-ce qu'on peut dire qu'il ne faut qu'ils fassent que ça ou il y a...
Non, on ne va pas dire qu'il faut éliminer les jeux. Le jeu est formateur, quelque part. Mais il faut leur dire que moi, je leur suggère qu'ils commencent à apprendre un peu de mathématiques. Ils comprendront qu'il y a énormément de mathématiques derrière ces jeux. Et c'est un des débouchés les plus prometteurs. Et les Français tiennent une place très importante dans les jeux de vidéo, parce qu'il y a des programmeurs, des mathématiciens derrière.
Est-ce qu'il y a un bon âge pour apprendre ou pour aimer les mathématiques ?
Alors, il y a des psychologues qui disent qu'au-delà de 14-16 ans, les choses deviennent difficiles. J'ai vu d'expérience des gens reprendre les mathématiques à des âges avancés et vraiment s'y plaire et faire des choses importantes. Mais pour faire des mathématiques à haut niveau, il faut commencer tôt, comme la musique.
Alors, pour en revenir à Aristote, on va aller bien au-delà d'Archimède. Hein. Enfin, je ne sais pas si dans le temps, ça se suit comment. Enfin,
C'est l'inverse.
Donc, voilà. Pour en revenir à cette période où les mathématiques et la philosophie allaient ensemble, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore de la philosophie dans les mathématiques, ou que les mathématiciens ont un esprit qui voit le monde d'un peu plus haut que les autres?
Ils ne voient pas le monde d'un plus haut, mais et probablement certains coins sont plus éclairés pour les mathématiciens et donc ils voient mieux qu'ailleurs.
Donc l'occasion peut-être pour ces journées académiques de faire le point et puis de montrer que les mathématiques sont bien vivantes et qu'elles traitent du monde, des problèmes du monde et des cultures du monde. Merci beaucoup donc monsieur Belmehdi, et donc très bonne chance et très bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.